C'est poulet.
C'est poulet qui meurt de manière bizarre. Donc il a 5 ans de poulet, d'habitude il pousse bien, là à 6 semaines ça commence à plus aller. Ils se déplument d'un côté, ils ont des diarrhées mais c'est pas fréquent, c'est pas continuel, ça peut aller un jour bien, un jour l'autre. Par contre ils dépérissent, ils mangent très bien, ils se blottissent. Ils se reproduisent sur eux-mêmes, c'est à peu près ça.
Oui, attitude prostrée.
Voilà, ils sont prostrés et puis ben, du coup, ils ont des pertes d'équilibre. Donc, on pourrait penser à un truc neurologique central, qui est au niveau du cerveau. Et bon, apparemment, c'est pas trop ça, ça a l'air d'être plutôt la faiblesse qui les fait tomber. Donc, son hypothèse de travail, c'était éventuellement des mycotoxines dans l'alimentation. Donc, moi, j'ai un peu parlé avec lui, c'est une diatable, donc pour moi, je pencherai un peu sur ce truc-là aussi. Donc là, le problème c'est qu'il va falloir trouver pourquoi ces poulets, ils ont ça. Donc qu'on fasse de l'homéo, qu'on fasse de la phyto, qu'on fasse de l'aroma, qu'on fasse de la gémothérapie, qu'on fasse de l'allopathie, donc les médecines normales, il faut poser des diagnostics. Il y a des diagnostics symptomatologiques qu'on peut poser, donc des symptômes qu'on va décrire, donc ceux que je viens de vous dire, mais il faudra trouver de toute façon une étiologie. On va éventuellement réussir, si on y arrive, tant mieux, à soigner ce lot de poulet, c'est bien. Mais il faudrait quand même qu'on connaisse la réponse à notre question, qu'est-ce qui a provoqué cette affaire-là? Parce que sinon, la fois prochaine, on est de nouveau, et c'est le cas de dire pour les gens qui élèvent des volailles, de bec dans l'eau. Hein? Donc là, il a fait analyser ses aliments, malheureusement, on n'a pas les résultats. Donc moi, je lui ai conseillé, si ça revient négatif sur la mycotoxine, de faire analyser un ou deux poulets. Hein? Parce qu'il faut absolument qu'on ait un diagnostic étiologique. Ça ne nous empêchera pas, au contraire, de faire un traitement en médecine complémentaire, mais il faut qu'on ait un diagnostic étiologique pour ne pas reproduire la même cochonnerie, le même problème la fois suivante.
Est-ce que tu en as des
mycotoxines sur l'eau?
Il y a des
mycotoxines sur l'aliment. Et on ne peut pas avoir un problème sur.
Et dans mon coffre. On en a un dans le coffre.
J'en ai un dans le coffre.
Oui, on peut avoir ça aussi. Moi, je ne comprends pas, mon premier réflexe, c'est d'ouvrir.
Oui, alors déjà, il a été fait. Alors, autre chose concernant ce lot de poulet. Donc, il a demandé à son ou sa veto, je ne sais pas, de faire une analyse de fientes pour voir si c'était de la coccine. Quand on fait une analyse de fientes, ou quand on fait une analyse de bouse, ou quand on fait une analyse de matière fécale de quelque animal que ce soit, on ne prend jamais les matières fécales qui se trouvent déjà au sol. Il faut absolument récupérer des matières fécales qui sont soit pondues, on va dire, par l'animal dans un endroit adapté, propre, sur un support propre qui n'a pas été souillé et qu'on récupère le plus vite possible, ou alors quand la taille de l'animal et la physiologie de l'animal le permet, on met un gant et on va récupérer ça au niveau du rectum. Parce que sinon on a des contaminations extérieures, ou bien on va tomber sur un animal qui n'a pas à éliminer les parasites ou les bactéries, parce que bah, celui-là n'est pas malade, et à ce moment-là, bah, on a un résultat négatif, et on dit, bah, non, c'est pas ça. Donc, le résultat de la coccidiose sur les plantes qui avaient été prélevées au sol était négatif. Deux possibilités pour avoir, si toutefois on a de la coccidiose, deux possibilités pour avoir des résultats négatifs. Le premier, c'est qu'on est tombé, effectivement, en ayant prélevé au sol, sur un animal qui, lui, n'a pas ou peu de coccidie, donc à ce moment-là, ben, le résultat sera négatif. Deuxièmement, la coccidiose, ça s'élimine de manière cyclique. Donc, on peut tomber sur un jour sans. Et puis, il y a une troisième raison qui peut faire qu'on ait des animaux qui ont de la coccidiose, mais qui n'éliminent plus de coccidie, c'est qu'en fait, ils en ont eu tellement, qu'ils en ont éliminé, mais il n'y en a plus dans l'intestin. Par contre, les dégâts sont faits. Ils sont en séquelles de coccidiose. Ça peut ressembler à Auschwitz. Hein. J'ai vu des veaux comme ça, couchés dans des coins, en train de clamser avec des chiasses, mais comme de l'eau. Et quand on a fait les analyses de coccidiose, il n'y en avait plus. Et pourtant, quand on les a ouverts, on a trouvé les lésions de coccidie. Donc vous voyez, il faut vraiment être très précis quand on cherche les raisons pour lesquelles nos animaux sont malades. C'est pas parce qu'on fait des médecines différentes qu'on ne doit pas être scientifique. Au contraire, il faut l'être encore plus que si on ne faisait pas les médecines différentes.
Tout à l'heure, vous avez parlé de biologie, c'est quoi la biologie?
C'est la cause. La cause, ça peut être une bactérie, un virus, un champignon, une alimentation défectueuse, le froid, le chaud, voilà. Hein? Donc, dans son cas, on va, dans un premier temps, pour les mycotoxines, ce qui marche le mieux pour capter les mycotoxines dans l'aliment et pour éviter que les animaux soient donc, atteints, c'est de mettre du charbon de bois. Donc, le charbon de bois, c'est de la phyto. Hein? C'est du bois qui a été chauffé, brûlé, carbonisé. Et après, bah, il est moulu et on est reparti dans l'aliment. Donc ce charbon de bois, vous allez voir de la poussière de charbon de bois. Vous allez voir des micro-particules de charbon de bois. Donc, vous allez voir plein de petits points. Si vous étalez ça, vous savez ce que c'est de la poussière de charbon de bois. Sauf que chaque petit point, comme ça, chaque petite particule de charbon de bois, en fait, c'est une espèce de grosse particule avec dedans des trous. Un peu comme l'argile, d'ailleurs, hein. Mais la différence, c'est que le charbon de bois, il est beaucoup plus absorbant pour les mycotoxines que l'argile. Ensuite, il va falloir travailler sur la toxémie qu'aura engendré la mycotoxine. La mycotoxine, elle agit localement en rendant l'animal malade, mais aussi, elle va empoisonner le foie, les reins, les muscles de l'animal, voire le système nerveux. Et donc, il y a des remèdes qu'on peut utiliser pour ça. Alors, vous pouvez faire un nettoyage avec des plantes. Donc là, vous serez dans le cadre de la phytothérapie. D'accord ? Donc vous allez utiliser dans ce cas-là des plantes qui vont agir sur le foie, les reins, pour nettoyer et soutenir. Voire pour restructurer un organe atteint. Alors, tout à l'heure, il y a eu une autre question. Il y a eu la question, qu'est-ce que c'est un drainage? Un drainage, c'est un nettoyage. L'organisme de n'importe quel individu, que ce soit un être humain, un animal, mammifère, un oiseau, un reptile, même un insecte, il y a des choses qui rentrent et il y a des déchets qui doivent sortir. Donc, chez les oiseaux et les mammifères, on a des organes qu'on appelle des émonctoires. Alors, tous ces noms barbares que je vous donne, ce n'est pas parce que je veux me faire mousser, hein. Simplement, ça s'appelle comme ça, et en plus, comme ça, vous les avez entendus, et quand vous lisez un livre, et ben, si vous lisez le émonctoire, vous saurez ce que c'est. Les émonctoires, ce sont les organes qui vont permettre d'éliminer les toxines et les déchets de l'organisme. Vous avez le foie, vous avez les reins, vous avez l'intestin, vous avez le poumon, et vous avez la peau. D'accord ? Alors, le foie. Le foie, c'est une centrale d'épuration. C'est lui qui va transformer les toxiques pour pouvoir les éliminer par les autres voies. Si le foie est fatigué, par exemple, quand le foie a été intoxiqué par de l'alcool, par des médicaments, par des mycotoxines, eh bien, il ne peut plus faire son effet. Et à ce moment-là, eh bien, il va envoyer dans l'organisme des poisons qui vont devoir être éliminés par les autres émonctoires. Sauf que ça va empoisonner, par exemple, le rein. Il veut éliminer ces poisons. Donc, on est encore plus embêté parce que du coup, le rein ne fonctionne plus. Le rein, c'est comme un filtre de café. Une cafetière à café, là, vous savez, on met de l'eau dedans et puis ça passe dans un circuit et ça passe dans le filtre. Une fois qu'elle est entartrée, il n'y a plus rien qui passe. Là, le rein, c'est ça. Donc, admettons que le rein soit bousillé. Eh bien, à ce moment-là, il vous reste quoi? L'intestin, le poumon et la peau. L'intestin, ben, il va faire éventuellement de la diarrhée. Le poumon, ben, lui, il est en fin de course. Donc, il va éventuellement avoir des problèmes respiratoires. Et puis la peau, bah, elle, elle va avoir des boutons, perdre les cheveux, se gratter, etc. Et quand plus rien de tout ça ne fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, les poisons qui circulent dans le sang, puisqu'ils n'ont pas été détruits et éliminés, vont aller au cerveau. Et là, on a les symptômes neurologiques qui apparaissent. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe, en gros. Hein. C'est de la physiologie revue et corrigée à l'attention du groupe de l'ADR du 5 avril 2016.
Physiologie pour les nuls. C'est le de
ma carnelle. Non, mais ça vous donne une bonne idée de comment ça se passe à l'intérieur. Vous savez, le film La vie, là, je ne sais plus comment ça se passe.
Il était une fois la vie.
Avec les petits bonhommes, là. Hein.
C'est bien ça.
Bah, c'est un peu ça. Hein. Donc voilà. Donc nous, il va falloir qu'on traite le foie pour le remettre en état, qu'on stimule les reins pour éliminer et qu'on gère aussi un peu les effets secondaires neurologiques, etc.
Quand on dit drainage, c'est un peu comme une purge.
C'est un peu comme une purge, sauf que c'est une purge, ça donne systématiquement la chiasse. Tandis que le drainage ne donne pas nécessairement la diarrhée.
Sans doute.
La purge, elle va agir uniquement sur l'intestin.
On voit les animaux qui font ça, les chiens qui se mettent à manger de l'herbe pour se purger.
La purge agit uniquement sur le tube digestif.
Sur le tube digestif, ouais.
Alors que le drainage, il va aller agir partout dans l'organisme. Alors ce matin, je vous ai parlé de plantes, par exemple pour le foie. Je vous ai parlé du chardon-marie, je vous ai parlé du pissenlit, je vous ai parlé de l'artichaut, je vous ai parlé du fume-terre. Vous voyez, donc ce sont des plantes qu'on peut utiliser pour le foie. Quand le foie a déjà été un petit peu abîmé, il y a une plante qui marche très bien pour le reconstruire, c'est le desmodium. Alors ça coûte très cher, donc c'est pas une plante dont je parle tous les jours en médecine vétérinaire. Mais si on a vraiment envie de soigner un groupe d'animaux ou un animal particulier qui vaut la peau des fesses parce qu'il a été champion 10 fois au Salon agricole de Paris et dans toute la France ou dans le monde entier, ben pourquoi pas, hein? Donc il faudra taper sur ces plantes pour le foie. Comme on a aussi besoin de stimuler les reins, on va aussi utiliser éventuellement des plantes qui vont nettoyer les reins. Donc l'idéal chez toi, ce serait peut-être de prendre chardon-marie et pissenlit, qui vont travailler sur foie et rein. D'accord? Pour les problèmes neurologiques, en phyto, il n'y a pas grand-chose. Il va falloir être patient, et on va parler cet après-midi de l'homéo, et là je te donnerai un traitement homéopathique que tu pourras mettre en place, qui travaillera à la fois sur foie, rein et problèmes neurologiques.
D'accord, donc pour un peu résumer, bon, c'est pas un enjeu économique fort pour l'instant,
ouais.
Mais à la limite, là, si je trouve des pissenlits...
Tu peux leur donner des pissenlits.
Je peux m'amuser dans la prairie.
Oui.
La à côté, là, il y a des pissenlits.
La feuille et les racines. La feuille et les racines.
C'est sur les parties jeunes qu'on va prélever en priorité. Hein? C'est sur les parties jeunes.
Bah, dans les parties jeunes, tu as les cellules souches, qui sont toujours plus efficaces que dans les vieilles parties qui sont ligneuses. Donc la lignine ne contient plus beaucoup de principes actifs.
Ouais. Hein. En préventif, on peut faire des cures de charbon.
Alors on peut faire des cures. On fait des cures de charbon. Quand effectivement on a des
pour les volailles.
Oui, ben justement.
Tous les 3 mois.
Tout à fait. On fait des cures de charbon même tous les mois.
Est-ce que là
sur les volailles tous les mois parce que les volailles ça ne marche pas.
Est-ce que intégrer charbon de bois dans l'alimentation
Attendez, restez bien avec moi là parce que sinon après moi j'ai du mal. D'abord je n'entends plus que me pose la question qu'on pose et en plus on n'en profiterait pas. Donc intégrer du charbon de bois de manière continuelle dans une alimentation peut avoir comme effet secondaire, on va dire, comme risque. Comme il absorbe le charbon de bois, les mycotoxines, il absorbe aussi certaines vitamines, certains oligo-éléments, etc.
D'accord.
Donc on ne peut pas le faire au continu. On le fait sur une dizaine de jours, par exemple, que quand on a une problématique. Par contre, effectivement, le faire de temps en temps, par exemple chez des volailles, le faire une fois par mois pendant 2 ou 3 jours, ça peut avoir pour effet de nettoyer effectivement toutes les toxines qui se baladent dans l'intestin, même les bactéries à la limite, les bactéries anaérobie, type les clostridies, etc., qui va embarquer, voilà. Ce qu'il ne faut pas, c'est vous effrayer parce qu'à la sortie, ça va être noir.
Alors du coup, c'est du charbon de bois qu'on...
En fait, vous pouvez moudre votre charbon de bois vous-même, ou l'acheter, ça s'appelle quelque chose...
Et tous les morceaux noirs qui ne sont, sont pas complètement...
On achète un sac de charbon de bois barbecue et puis tu...
Oui, ça marche aussi, il faut se méfier, il y a des produits... Après, il ne remarque pas, si tu le broies un peu, il va...
Qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme pourcentage, par exemple, dans l'alimentation?
D'accord. Quand ils ne veulent pas manger...
Moi, je sais pas, ça dépend comment vous distribuez... Tu distribues combien de kilos d'aliments par jour?
De leur fil à boucher.
Ben moi je remplis les alimentateurs, si ça a besoin. Et c'est 25 kilos par aliment.
25 kilos pour 25 kilos, moi je mettrais 500 grammes. Pas plus. Ouais. Pas plus, hein. Peut-être 250 à 500 grammes. Mais là, il est dans un problème de pathologie, ouais, mais pas dans du préventif. Dans du préventif, on mettra peut-être moins. Mais là, il faut absolument arrêter de bloquer le truc.
Oui, donc, quand on dit en mettre moins, quand on fait du préventif,
200 grammes.
200 grammes.
Oui, pour 25 kilos, quoi.
Ouais, ça fait 1%, quoi.
Voilà. Ouais.
Est-ce que je peux... En fait, si j'avais ce problème-là, parce qu'on élève 4000 volailles par an, c'est une quinzaine d'années qu'on en fait, je me posais déjà la question de l'alimentation, parce que je sais que
les volailles... C'est ce qui s'est posé comme question.
Mais pas les mycotoxines, parce que les volailles sont très très sensibles aux facteurs antinutritionnels. Donc s'il y a du poids fourragé, s'il y a de la févrole, s'il y en a de trop, ça détruit les volailles.
Oui, mais ce qui se passe, si tu veux, c'est que... Ça fait 4-5 ans que je fais un 3-400. Je fais de l'alimentation pour mes porcs, et comme c'est un monogastrique aussi, c'est à peu près la même chose. Donc je prends dans l'aliment porc pour faire mon.
Non. Voilà. Ah ben, parce que les porcs sont beaucoup insensibles aux facteurs antinutritionnels.
Faut parler un peu plus fort, madame, parce que là-bas, au bout, on n'entend rien.
Les porcs sont beaucoup moins sensibles aux facteurs antinutritionnels qu'on trouve dans la févrole et dans les pois. Et vous pouvez facilement tuer des volailles avec trop de poids, et surtout le poids fourragé,
J'en ai pas beaucoup.
C'est trop de protéines, c'est...
Non, c'est
un facteur antinutritionnel.
Et d'une année sur l'autre, on n'a pas la même chose.
On n'a pas les mêmes teneurs. Un facteur antinutritionnel, c'est des principes actifs qui se trouvent dans des plantes ou dans des aliments. Et qui vont empêcher les facteurs nutritionnels d'être assimilés par l'organisme. D'accord ?
Et tu peux avoir, tu as des tourteaux de soja dans tes
restes ? Tourteaux de colza, tourteaux de tournesol.
D'accord, parce que des fois les tourteaux de soja en bio aussi, je ne sais pas si tu es en bio, ils ont des soucis sur la trituration du soja, et donc ils vont te vendre des tourteaux qui sont mal triturés et qui sont aussi très riches en facteurs antinutritionnels, et ça décime des...
Alors, quand on dit facteur antinutritionnel, pour moi, c'était quelque chose qui était à l'inverse de la performance technique, mais pas forcément, provoquerait pas forcément des mortalités.
C'est un empoisonnement. Empoisonnement tout doucement, et c'est pour ça que maintenant, ils demandent par exemple la févrole, ils vont présenter des févroles avec faible vicine et convicine, qui sont des facteurs antinutritionnels, parce qu'ils ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à valoriser les poids. Surtout le poids fourragé, c'est catastrophique. En volaille et en porc, ça ne sert à rien, en fait.
D'accord.
Et donc, c'est pour ça qu'on cultive de moins en moins. Et qu'on essaye de favoriser des févroles sans vicine et convicine.
Alors, je vais continuer, puisque tu as un peu un puits de science où tu connais le domaine au niveau nutrition. Cette année, on a eu une année où on a eu beaucoup de vaisses sauvages. Dans mes céréales, dans mes critical pois, j'avais énormément de vaisses sauvages. Moi, je ne sais pas chez vous, cette année, ça a explosé. Donc, du coup, forcément, à la récolte, les vaisses, je ne peux pas les séparer.
Oui.
Même si je nettoie mes céréales, je n'arrive pas à les enlever.
Toutes les légumineuses en céréales, en fait, vont avoir c'est des gens de tanin que les porcs, on ne verra pas cet effet.
Et les porcs, ils boufferont pas s'il y a de la vaisse. Ils mangent carrément pas.
Ah, les nôtres, ils mangent la vaisse, on les entend craquer des dents.
Vos porcs ?
Ah oui.
Ouais, alors on leur donne la veste que... comme ça de temps en temps juste pour
alors ils s'amuser,
c'est très curieux. Là, toi ils ne les mangent pas, toi ils les mangent. Il faut savoir que d'une exploitation à l'autre, certains animaux vont accepter ou pas certains aliments. On a par exemple le truc avec l'huile de foie de morue qu'on donne aux vaches pour stimuler la fécondité. Eh bien, il y a des troupeaux où les animaux se jettent sur l'huile de foie de morue, ils adorent ça. Et dès qu'ils entendent le bruit du machin, ils arrivent. Puis d'autres, ils tirent le nez. Alors, on ne sait pas pourquoi. Hein. C'est la même huile de foie de morue, c'est les mêmes bovins, la même race. À deux exploitations à 50 mètres d'écart, c'est comme ça. Donc ça, voilà, c'est des caractéristiques particulières. Donc ça, c'est après à chacun de savoir, il se passe ci, il se passe ça. Donc la piste des facteurs antinutritionnels est exacte. Elle peut effectivement donc être une des causes aussi de ce dépérissement, parce que le facteur antinutritionnel empêche les animaux de se servir des nutriments qu'on lui donne. En gros, c'est ça. Et donc, forcément, ils ne reçoivent plus. Toi, tu lui donnes la ration pourtant, et il ne les reçoit plus puisqu'il ne les digère pas, il ne les assimile pas. Et ça existe dans toutes les espèces animales et pour même des aliments très bizarres. Hein, donc, voilà. Donc,
tu peux leur donner tout ce que tu veux, du pissenlit et tout ça. Ouais. Là, tu n'arriveras jamais.
Voilà. Donc, il faut déjà.
Le loup est fichu, hein, c'est comme ça.
Mais la veste sauvage, c'est pas trop bien.
Bon, par contre, si vous voulez bien, excusez-moi, mais si vous voulez bien, bon, je pense avoir donné une partie des réponses à notre ami. Il y a eu encore un autre débat qui s'est mis en place, qui était très positif et qui est très intéressant. Mais il y a d'autres élèves et puis il y a d'autres choses à faire. Donc on va passer sur un. Je te donnerai quand même le programme de tout à l'heure. Après, effectivement, tu vérifieras par rapport à ce que nous a. C'est comment ton
Delphine.
À ce que Delphine nous a dit, parce que c'est effectivement très intéressant comme piste à suivre. Oui.
On est 20 personnes autour de la table, on voit bien qu'on a plein de choses à s'échanger. Comment on fait à la fin de cette journée-là pour continuer les échanges? Je rate ma question.
Bah, je vais sur le forum qu'elle va créer.
C'était ça la réponse?
Voilà.
Bon, alors c'est bon.
Faut qu'on en discute ensemble à la fin de la journée.
Vous avez dit deux choses.
Alors ça, on va parler plutôt de ça en fin de journée.
Il y a des trucs à
après, j'avais une question. Ici, là, ici, là. J'avais une question sur comment est-ce que je choisis entre la phyto, est-ce qu'on peut rester tous ensemble, entre la phyto, l'aroma et l'oméo. Comment est-ce qu'on choisit?
C'est bon, c'est
la prochaine fois. Alors, je vais vous dire, je ne sais pas. En fait, on commence toujours par utiliser ce qu'on maîtrise le mieux. Et ce qui nous plaît le mieux. Il y en a qui vont se sentir hyper à l'aise avec la phyto. Il y en a qui vont se sentir...